France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Flocons, froid et verglas, le cocktail météo du week-end. Nous sommes à Grenoble dans un instant et à Angers où Thomas dort dans sa voiture faute de logement, ce qui ne l'empêche pas de penser aux autres. À suivre encore, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, et un plan zéro téléphone en prison, alors que l'un des chefs de la DZ Mafia, actuellement détenu, pourrait être l'un des commanditaires de l'assassinat de Mehdi Kessassi à Marseille. Nous serons également au Brésil dans les prochaines minutes. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Gros désaccord sur les énergies fossiles en ce dernier jour de COP.
Oui, le Brésil propose un texte de compromis ce matin, mais il ne parle plus des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement climatique. La France et l'Europe se disent déçues.
A tout de suite en direct de Belém, le plan de paix des Américains et des Russes pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. Nous serons à Moscou. Trois féminicides en quelques heures en France, à Besançon notamment, où le suspect est un homme déjà condamné. Les sangliers qui prolifèrent, près de 900 000 abattus l'an dernier. Et puis la langue française version Aya Nakamura, elle sort aujourd'hui son cinquième album. Nous verrons comment elle arrive à capter les expressions de l'époque et à les mettre en musique. À partir de 13h30, la médiatrice de Radio France vous répond, vous l'avez interrogée notamment sur les changements à l'antenne de France Inter depuis la rentrée et sur le traitement de l'incarcération de Nicolas Sarkozy. 13h50, c'est la France. Il existe en France des sirènes professionnelles. Et oui, c'est un métier, nous dira Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Le comédien Tigrane Mekhitaryan demande si 4 de la rime.
T'as l'impression qu'à chaque moment, ça va péter, ça va exploser. Et c'est ce qui se passe à la fin de la musique. Et je trouvais ça super fort, super intelligent. Et il me rendait intelligent, quoi. Je comprenais des images qui faisait comparaison avec ma vie.
Et ce sera avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est un week-end glacial qui s'annonce. La quasi-totalité des départements sont en vigilance pour le froid ou pour la neige et verglas. Rien d'exceptionnel, nous dit Météo France. Mais les températures sont déjà largement en dessous des moyennes. En prévision de l'hiver, une petite partie de la production d'électricité est d'ailleurs assurée depuis quelques jours par des centrales à charbon. Et puis il y a ces paysages recouverts de blanc depuis quelques heures en Normandie, Hauts-de-France, Centre, Limousin et dans l'Est. À Grenoble, la neige est tombée cette nuit. Katia a eu la surprise au réveil.
Dans la nuit, je me suis réveillée vers 4 heures et j'ai regardé la neige, c'était magnifique. Moi, j'ai connu des hivers extrêmement neigeux et lumineux à Grenoble. Ça avait disparu pendant plusieurs années. Là, c'est réapparu. C'est bon signe. C'est super magique, bien sûr, c'est beau. C'est beau la neige, ça égalise tout, ça recouvre tout. J'ai pris des photos de bancs et de bicyclettes complètement recouverts de neige, c'était magnifique.
Katia au micro d'ici Isère. À Angers, lui s'apprête, comme des milliers de sans-abri, à passer l'hiver dehors, dans le froid. Il s'appelle Thomas, la trentaine, il vit depuis 10 mois dans sa voiture, après avoir perdu son logement. Et il a eu l'idée d'écrire des poèmes sur des bouts de papier, des mots qu'il dissémine ensuite un peu partout dans les rues de la ville. Faustine Calmel, vous l'avez rencontré.
Une fois ces petits mots rédigés, dans sa voiture ou au comptoir d'un café, Thomas part à la recherche d'un lieu où les déposer.
Ce qui est marrant, c'est que vous pouvez mettre des mots comme ça dans les paniers des vélos.
Cela peut être aussi un banc, un abribus, entre deux livres dans un magasin, pour toujours surprendre.
Toi qui trouves ce mot, sache que même la plus petite lumière suffit à percer la nuit.
Et réjouir cette passante.
C'est très joli, c'est vraiment un petit mot ravissant. Ouais, on en voudrait plein des comme ça, surtout en ce bas monde.
Thomas écrivait, quand il était plus jeune, dit-il, des poèmes mélancoliques. Aujourd'hui, c'est autre chose.
Que vous ayez un salaire, que vous soyez riche ou pauvre ou à la rue, je pense qu'on a tous des problèmes dans la vie et qu'on mérite tous, je pense, d'avoir un moment de bonheur, un moment de sourire dans la journée. Si tout le monde en fait avait ça, je pense que ça irait beaucoup mieux. Et moi, ça fait énormément du bien d'écrire des choses positives.
Il tient à son anonymat, signe de son pseudo sur les réseaux sociaux Mes Pensées Personnelles, mais a pu une fois observer l'effet de ses poèmes.
Cette jeune femme, en fait, s'est arrêtée, s'est assise, a vu le mot Et j'ai vraiment vu l'émotion dans son sourire. Et j'ai failli pleurer en fait en la voyant, mais ça m'a fait beaucoup de bien en fait de la voir vraiment sourire comme elle le fait.
Le trentenaire s'apprête à passer l'hiver dans sa voiture, a fait une demande de logement social et continuera, il le promet, à disperser ses pensées quand il aura un toit.
Reportage à Angers, Faustine Calmel. À Rennes ce matin, 150 personnes se sont rassemblées devant une école maternelle de la ville, choquées par les menaces de mort proférées il y a un mois contre un enseignant. Par un père d'élève, cet homme refuse que sa fillette ait un professeur homme en classe. Il n'y a pas d'aspect religieux derrière tout cela, a expliqué hier le ministre de l'Éducation nationale. Et parmi les enseignants présents ce matin devant l'école, l'émotion était très forte. Emma Doé, vous avez pu échanger avec quelques-uns.
Plus d'un mois après ces menaces, la douleur est toujours aussi vive pour son collègue. Il souhaite rester anonyme.
Cette histoire-là, en fait, j'y pense quasiment en continu, quoi. Moi, j'étais complètement abasourdi d'apprendre ça. L'ambiance dans l'école, elle est hyper pesante et on n'a plus envie de venir travailler. En fait, on ne peut pas imaginer vivre ça en tant qu'enseignant, là, qui est tous les médias, qui est... Des menaces comme ça, non, c'est inimaginable. Ouais.
Ces médias venus en nombre ce matin, la prise de parole aussi du ministre la veille, qui permettent, selon cet enseignant, d'enfin prendre au sérieux ces menaces.
On ne s'est pas senti soutenu au moment des faits, quand on en a fait part à l'institution. Avant de se mettre en grève, on a été en contact avec notre hiérarchie qui n'a pas donné de suite appropriée à ce qu'on a vécu.
Qu'a fait notre hiérarchie ? Pourquoi on en est là ?
La question du temps de réaction qui pousse cet enseignant, Fabien Evaris, d'une école voisine, à se mettre en grève.
Cette situation, elle date de mi-octobre. Comment ça se fait que rien n'a été fait de la part de l'institution et qu'on en arrive là aujourd'hui à ce que ça prenne une telle ampleur ? Pourquoi c'est l'intervention du ministre qui finit par clore ça, alors que ça aurait dû être fait depuis longtemps par la DSDEN.
L'éducation nationale, qui avec la ville de Rennes nous confie l'adjointe sur place, envisage la scolarisation de l'enfant dans une autre école.
À Rennes, les précisions pour Inter d'ici Armorique. Marseille se prépare donc à rendre hommage à Mehdi Kessassi. La marche blanche prévue demain sera en fait un rassemblement pour des raisons de sécurité. On va vous donner le détail et les dernières infos dans un instant. Avant cela, ce plan anti-portable en prison annoncé ce matin par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. 30 millions d'euros pour 6 établissements dont les cours de promenade vont être couvertes pour empêcher les jets de téléphone depuis l'extérieur. Le ministre qui s'est aussi exprimé sur l'enquête en cours autour de l'assassinat du petit frère d'Amine Kessassi. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Gérald Darmanin confirme que l'un des chefs présumés de la puissante mafia marseillaise, la DZ Mafia, que cet homme est bien soupçonné d'être l'un des possibles commanditaires.
Ah oui, pour le garde des Sceaux, l'enquête en cours cherche à établir effectivement si le prisonnier le plus surveillé de la prison de Bourg-en-Bresse, alias Mamine, est détenu jusqu'en début de semaine avant d'être transféré à Condé-sur-Sarthe, ne serait pas le commanditaire de l'assassinat de Mehdi Kessassi.
Nous n'avons pas, ces dernières semaines, trouvé, malgré les fouilles, de téléphone portable dans la cellule de la personne que vous évoquez. L'enquête dira s'il est responsable, je n'en sais rien. L'enquête dira si nous avons failli, je ne le crois pas. Mais il y a d'autres moyens de communiquer à l'extérieur lorsqu'on est un détenu. Il me semble que l'administration pénitentiaire n'a rien à se reprocher. Les agents pénitentiaires à Bourg ont fait leur travail. Simplement, nous avons affaire souvent à des gens capables de passer des informations de manière extrêmement diversifiée, en utilisant soit la corruption, c'est possible, soit des moyens technologiques qu'il faut combattre, soit d'autres moyens que je vous laisse deviner.
Selon nos informations, la cellule de Mamine à Bourg-en-Bresse a été fouillée à 55 reprises depuis le mois de mars dernier, sans trouver donc le moindre portable. Selon une autre source proche de l'enquête cette fois, pour l'heure, rien ne relie Mamine aux menaces qui pesaient sur le militant anti-narcotrafic Amine Kessassi quand il a été mis sous protection policière il y a un mois, mais qu'il fait bien partie, Mamine, d'une liste de possibles commanditaires.
Tout de même, Emmanuel Leclerc, cet homme dont vous nous parlez a donc été changé de prison, il est arrivé à Condé-sur-Sarthe, qui est une prison particulièrement adaptée pour les détenus liés au narcotrafic. On se demande donc pourquoi il n'avait pas été transféré plus tôt.
Selon nos informations, les services de renseignement criminels avaient établi une liste de 10 chefs présumés de la DZ Mafia. L'objectif était de ne surtout pas les regrouper pour éviter les pressions en tout genre. Mamine faisait partie d'un deuxième groupe de 5 suspects prévus pour Condé-sur-Sarthe en attendant la fin des travaux.
Emmanuel Leclerc, autre décision du ministre ministre ce matin. Il démet de ses fonctions. Le directeur de la prison de Rennes, après l'évasion d'un détenu la semaine dernière lors d'une sortie collective dans un planétarium, cet homme qui avait commis des vols sans violence, est toujours recherché. Mais revenons à la marche de demain à Marseille, qui en fait sera plutôt un rassemblement, donc en soutien à la famille de Mehdi Kessassi. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Des personnalités politiques de tous bords seront présentes.
Oui, déjà la gauche sera largement représentée. Tous les chefs de file feront le déplacement à Marseille. En tête, la patronne des Verts, Marine Tondelier, viendra soutenir Amine Kessassi. Militants écologistes dont le frère a été tué seront présents aussi l'insoumis Manuel Bompard, le communiste Fabien Roussel, le socialiste Olivier Faure, Raphaël Glucksmann. En revanche, aucun leader du centre droit ou de l'extrême droite n'a prévu de faire le déplacement, à part le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Dominique de Villepin. Gabriel Attal pour Renaissance n'exclut pas de venir, mais pour l'instant, rien n'est confirmé. Côté politique locaux, les candidats à la municipale seront au rassemblement, vous le disiez Jérôme, il n'y aura pas de défilé pour des raisons de sécurité. Rendez-vous au rond-point, Claudie Darcy, où Mehdi Kessassi a été assassiné. Le maire sortant, Benoît Payan, appelle les Marseillais à ne pas avoir peur face aux narcotrafiquants et à y participer. L'ALR, Martine Vassal, sera aussi sur place. Et même le RN aura un représentant, Franck Alizio. Son entourage assure qu'il viendra humblement dans un esprit de recueillement. Mais la famille de Mehdi Kessassi fait savoir que l'extrême droite n'est pas la bienvenue. Autre volonté de la famille, pas de prise de parole politique, ni à Marseille, ni dans les autres villes de France. Tous les partis s'engagent à respecter cette consigne. Pareil pour le gouvernement. Sa porte-parole Maud Bréjon et le ministre de la Ville, Vincent Jeanbrun, apporteront le soutien de l'État à cette famille endeuillée. Une présence annoncée comme sobre et humble.
Merci Sonia Gobry pour ces informations. Rassemblement donc demain à Marseille, demain après-midi. Mais il y aura aussi des rassemblements à Paris, midi, devant l'hôtel de ville, à Montreuil, à Bagneux ou encore à Clermont-Ferrand, à partir de 14h. Et si ce drame trouve un écho aussi fort en France, c'est parce que désormais toutes les villes sont concernées par ce trafic de drogue. Ainsi, Amboise, 13 000 habitants, département d'Indre-et-Loire. 7 personnes arrêtées lundi, elles sont suspectées de trafic de drogue. Elles sont présentées à un juge aujourd'hui. Adrien Bossard s'est rendu dans le quartier de Malétrennes. Signe de l'attention sur place, les habitants rencontrés ont souhaité que leur voix soit modifiée pour ce reportage.
En bas des tours d'immeubles, casquette vissée sur la tête, les dealers ne se cachent même pas.
De toute façon, le quartier leur appartient, donc ils font ce qu'ils veulent.
Cette habitante est l'une des rares à accepter de témoigner. Ça fait 2 ans qu'elle habite Malétrennes.
Je dis bonjour à tout le monde, même aux dealers, je les connais. En fait, ils mettent les barres de shit dans des sacs à crottes pour chiens. Ils les mettent dans les talus quand ils ont une livraison, et comme ça ils l'ont pas sur eux.
Et depuis cette bagarre entre trafiquants l'an dernier en bas de chez elle,
digne d'un film américain en fait,
elle a peur.
Ça hurlait dans tous les sens, j'avais la trouille de ma vie, je savais pas ce qui se passait dehors.
Pour ne pas se faire embêter, plusieurs femmes comme elle nous disent avoir des tasers.
Alors donc je suis allé à la police municipale et ils m'ont dit j'ai pas le droit au taser, au pistolet même factice et au canif.
À la place, ce sera donc un petit sifflet.
J'ai mon sifflet d'arbitre sur moi. Autour du cou. C'est mon fils qui m'a dit « Mais tu vas prendre ton sifflet, même de jour maintenant, parce que si tu cries, personne ne va se retourner. Par contre, si tu siffles, tout le monde va se retourner parce qu'ils vont croire que c'est la police. »
Car le trafic est quotidien et les arrestations, peu nombreuses, déplorent une autre riveraine.
Dès qu'ils voient une voiture de police, ils préviennent les autres. Bah, du coup, tout s'arrête. Ils partent tous d'un côté et puis ils sont jamais pris en fait.
Elle cherche à partir d'ici.
C'est en cours, c'est dans mes projets mais je peux pas actuellement. Mais en tout cas, si je dois partir, ce sera à cause de ça. Avec mes enfants, on a peur en fait.
Car à Malétrennes, tous t'assurent être abandonnés et demandent au plus vite la vidéosurveillance.
Adrien Bossard, ici Touraine.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Contre la hausse des féminicides, les associations appellent à descendre dans la rue demain. On en a recensé 107 l'an dernier, c'est 11% de plus en un an, soit en moyenne un féminicide tous les 3 jours. Mais ces 24 dernières heures, 3 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Une femme d'une cinquantaine d'années retrouvée morte hier à son domicile à Sedan, son conjoint interpellé. En Gironde, une femme de 45 ans tuée à Saint-Cyr-d'Abzac, son conjoint s'est dénoncé dénoncé auprès des gendarmes. Et puis à Besançon, une femme de 32 ans, abattue hier matin par son ex-conjoint. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour.
Cette femme avait déjà déposé plainte contre lui.
Oui, une femme tuée par balle en bas de chez elle, sur le parking de son immeuble. 7h du matin, elle partait au travail. Son ex-conjoint, 34 ans, l'attendait. Il a fini par être interpellé après s'être retranché plusieurs heures chez lui. Il était convoqué chez le procureur à la fin du mois après une plainte pour atteinte à la vie privée déposée en février par sa victime. Elle s'était vue remettre dans ce contexte un dispositif shérif. C'est une sorte de mini-boîtier, un tout petit bouton que vous activez en cas de danger. Lors d'un point presse, hier soir, le procureur de la République de Besançon a toutefois expliqué que les autorités n'avaient pas connaissance de menaces, de violences ou de contacts entre la victime et son ex-conjoint. La jeune femme avait aussi plus récemment déposé plainte pour des dégradations sur sa voiture. Le mis en cause, lui, compte plusieurs condamnations à son casier ces 16 dernières années. Violence, dégradation, infraction routière, mais aussi une condamnation pour harcèlement moral à l'encontre d'une autre femme, une autre ex-compagne.
Delphine Evenou pour ses précisions. À Lyon, c'est un avocat bien connu et spécialisé dans les dossiers de banditisme qui a été mis en examen ce matin pour viol et agression sexuelle au pluriel. Mathilde Imberti, il s'agit de David Metaxas.
L'enquête part en 2024 de la plainte déposée par une ancienne stagiaire du cabinet, selon une source proche du dossier. Aujourd'hui, 6 victimes sont identifiées, précise le procureur de Chambéry. L'avocat est mis en examen pour viol par personne ayant autorité sur la victime, mais aussi tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Le médiatique David Metaxas, avocat pénaliste au barreau de Lyon, engagé dans les affaires les plus marquantes du territoire. 2023, par exemple, l'affaire Axel Daurier, une jeune femme morte traînée par une voiture. Il plaide pour l'accusé, finit par porter plainte pour menace de mort tant il est pris à partie en fin d'audience et sur les réseaux sociaux. Il est aussi l'avocat du pizzaiolo stéphanois Greco, condamné pour crime mafieux en Italie et interpellé en 2023 après 17 ans de cavale en France. L'avocat de 49 ans avait été poursuivi déjà par la justice puis relaxé en 2016 pour recel de violation du secret professionnel. C'était là dans l'affaire de corruption visant Michel Néret, l'ex numéro 2 de la police judiciaire de Lyon. L'enquête qui le concerne aujourd'hui est délocalisé à Chambéry, hors du cadre lyonnais, étant donné sa fonction. Il est ressorti libre et a été placé sous contrôle judiciaire.
Mathilde Imberti, gros blocage en ce moment à la COP30, la conférence sur le climat qui se déroule à Belém au Brésil et qui doit s'achever ce soir. La présidence brésilienne a proposé ce matin un texte pour limiter le réchauffement climatique. Mais dans ce projet, il n'y a pas de feuille de route pour la sortie des énergies fossiles. Pétrole, charbon, gaz, celles qui émettent le plus de carbone. Sandy Dauphin, vous êtes sur place pour Inter. Sandy, il pourrait ne pas y avoir d'accord ce soir ?
Alors c'est possible que la COP30 joue les prolongations. Pour parvenir à un accord, c'est même assez fréquent, car pour l'instant, vous le disiez, ça coince. Ce matin, la France et l'Europe se disent déçus par le texte publié par le Brésil, notamment parce que le mot fossile a disparu, alors qu'il figurait dans une précédente version. Or, pour une trentaine de pays, dont la France, l'Allemagne, la Colombie ou le Royaume-Uni, c'est une condition minimum pour un résultat crédible de cette COP. Ces États ont d'ailleurs demandé par écrit au président de la COP30 de revoir sa copie. Ils veulent que le texte final mentionne cette fameuse idée d'une feuille de route sur la sortie des énergies fossiles. C'est d'ailleurs le président brésilien Lula lui-même qui avait lancé l'idée d'une réflexion collective sur comment on sort du charbon, du pétrole, du gaz. Ce serait aussi une façon d'aller plus loin que l'accord sur une transition hors des énergies fossiles conclu il y a 2 ans à la COP28 de Dubaï. Mais visiblement, c'est une ligne rouge pour la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite, le Nigeria ou encore la Russie.
Il y a donc ce blocage, Sandy, mais il y a quand même eu des avancées depuis 2 semaines.
Alors, le texte réaffirme son soutien au multilatéralisme et à l'accord de Paris. Il dit qu'il faut stopper la déforestation d'ici 2030. Il appelle aussi à tripler les financements pour aider les pays en développement à s'adapter, à se préparer aux impacts du dérèglement. Et il note aussi des progrès ces dernières années, notamment le développement massif des énergies renouvelables. Mais le texte rappelle aussi, avec inquiétude, que les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre des pays développés ne sont pas atteints. C'est justement pour ça que l'Europe et d'autres pays veulent que le texte mentionne une feuille de route sur les énergies fossiles pour dire comment on va remédier à la situation.
Sandy Dauphin en direct de Belém au Brésil avec les moyens techniques d'Olivia Branger. Américains et Russes viennent-ils de conclure un plan de paix pour l'Ukraine dans le dos des Européens et des Ukrainiens? Cela y ressemble beaucoup, l'administration américaine en confirme les grandes lignes et ce matin, on l'apprend à l'instant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est entretenu à ce sujet avec le Britannique Keir Starmer, avec l'Allemand Friedrich Merz et avec le président français Emmanuel Macron. C'est le chancelier allemand, le porte-parole du gouvernement allemand qui nous l'apprend à l'instant. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
Le plan semble quand même difficile à accepter pour l'Ukraine. Il prévoit de très lourdes concessions.
Oui, les pertes territoriales d'abord sont importantes. Non seulement l'Ukraine devrait céder quasiment tous les territoires qui sont actuellement tenus par les Russes, mais elle devrait aussi renoncer aux positions qu'elle tient toujours dans la région de Donetsk. Elle perdrait donc la souveraineté sur la Crimée, Louhansk et Donetsk. Son armée serait également rétrécie. Les effectifs seraient limités à 600 000 hommes contre 800 000 actuellement. L'Ukraine renoncerait également à son adhésion à l'OTAN. Elle devrait partager la production d'électricité de la centrale nucléaire de Zaporijjia et organiser des élections d'ici 3 mois, ce qui pourrait fragiliser le président Volodymyr Zelensky, empêtré actuellement dans un scandale de corruption qui touche certains de ses proches.
Est-ce que ce plan comporte quand même des garanties pour la sécurité à venir des Ukrainiens?
Oui, mais elles sont limitées. D'abord donc, l'OTAN s'engagerait à ne pas stationner de troupes en Ukraine. C'est la fin de la force de réassurance. Les avions européens seraient sur le territoire polonais. Ensuite, les garanties de sécurité resteraient contenues d'après le Wall Street Journal. Les détails figurent dans un document complémentaire. Il n'engagerait pas les États-Unis à fournir une aide militaire directe, mais plutôt une assistance. Elle serait valable pendant 10 ans reconductible. Pour cette garantie de sécurité, les États-Unis, d'ailleurs, devront recevoir une compensation.
Merci Étienne Monin. Évidemment, le point de vue est tout autre à Moscou. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant en Russie. Le Kremlin dit ce matin qu'il n'a pas reçu officiellement la proposition américaine. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bon, déjà, sur le fond, c'est probablement un mensonge, puisqu'il est clair que l'envoyé spécial de Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, a participé à l'élaboration de ce plan, on le sait. Et sur la forme, ça veut probablement dire que Moscou est dans une position d'attente, attendant de voir comment Kiev et les Européens vont se positionner avant de se dévoiler. Parce que si ce plan comporte, comme l'a dit Étienne, de nombreuses revendications de la Russie, il implique aussi quelques concessions de la part de Moscou. Les territoires conquis par la Russie ne seraient pas reconnus officiellement, mais de facto, ce qui serait contraire à la constitution russe, qui les a officiellement annexés. L'armée ukrainienne serait réduite, certes, mais à 600 000 hommes. Elle resterait une grande armée, loin de ce que voulait Moscou au départ, et puis les avoirs russes gelés seraient utilisés pour reconstruire l'Ukraine. Plusieurs journaux russes, ce matin, notent que ces conditions, du point de vue du Kremlin, pourrait être difficile à digérer, d'autant qu'hier soir encore, en treillis militaire à la télévision, Vladimir Poutine affirmait qu'il irait jusqu'au bout des objectifs de l'opération spéciale et traitait le gouvernement ukrainien d'association de malfaiteurs, un discours qui respirait plus la poursuite de la guerre que la signature imminente d'un accord.
Sylvain Tronchet, en direct de Moscou. Encore deux infos à l'étranger. D'abord, cette décision de la diplomatie française qui réduit encore ses personnels diplomatiques au Mali, comme l'ont déjà fait les Américains et les Britanniques, c'est en raison de la situation sécuritaire qui est extrêmement dégradée à Bamako, la capitale malienne. Et puis le Comité international de la Croix-Rouge nous annonce ce matin une réduction de 17% de son budget pour l'an prochain. Ça veut dire 3000 postes supprimés en raison des coupes budgétaires dans l'aide internationale. Des accidents de la route, des cultures ravagées. On connaît les dégâts provoqués par les sangliers et on comprend pourquoi à la lecture du chiffre communiqué ce matin par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs. Près de 900 000 sangliers ont été tués en France lors de la saison de chasse 2024-2025, plus 2,1% par rapport à la saison précédente. C'est un chiffre qui a été multiplié par 2 en 20 ans. Si on regarde dans le détail, les départements les plus concernés sont le Gard, devant l'Ardèche, la Dordogne et le Loir-et-Cher. Le sanglier, en fait, est désormais partout, à la campagne et près des villes. C'est le constat de Mathieu Salvaudon, le directeur du service dégâts grand gibier à la Fédération nationale des chasseurs.
On a une progression de la forêt hein, en France hein, depuis 20 dernières années. On a une progression aussi des zones de friche, hein, de maquis pour le sanglier, il y retrouve refuge. Le sanglier trouve aussi nombreux refuges maintenant en zone de plaine. Il va pouvoir se mettre dans les colzas, dans des cultures intermédiaires de moutarde, par exemple, l'hiver. En fait, il peut être présent toute l'année maintenant en plaine. Et puis, plus les parcelles sont grandes, plus c'est compliqué de déloger les sangliers de dedans. On a aussi le phénomène climatique qui a induit sur le sanglier plusieurs choses. La première, c'est une baisse des mortalités de marcassins en période hivernale. C'est aussi une facilité pour les femelles de gagner en poids en croissance et donc d'être fertiles plus vite et d'accélérer donc le rythme des portées. Le changement climatique aussi a induit des productions de fruits forestiers importants ces dernières années et on a à ce moment-là un apport de nourriture très important pour le sanglier.
Mathieu Salvaudon au téléphone de Frédéric Denis du réseau Ici en Aquitaine. Et toi, que veux-tu faire plus tard? Que veux-tu faire l'année prochaine, même pour tous les lycéens qui sont actuellement en classe de terminale? C'est le début de la saison des salons d'orientation. Le salon européen ONICEP s'est ouvert ce matin à Paris. Un salon du même genre va se tenir la semaine prochaine à Pau. Ce sera mi-janvier, par exemple, à Marseille. Alors, ces rendez-vous ont-ils toujours la cote auprès des lycéens à l'heure des réseaux sociaux? Mathilde Leroy a posé la question à quelques élèves à Paris.
Devant le lycée Camille C à Paris, Suzanne, élève en terminale plutôt littéraire, est un peu perdue.
Je n'ai pas d'idée de ce que je vais faire plus tard. Je me fais aider par une psychologue de l'orientation. Et comme ça, elle m'aide vraiment à comprendre ce que j'ai envie de faire.
Psychologue de l'éducation, que l'on appelle aussi conseiller d'orientation au lycée. Et puis subsistent les salons de l'éducation. Raphaël en a parcouru deux en un mois.
Ça m'a apporté des prisons sur certaines écoles ou certaines formations ou certaines licences. Et j'ai découvert aussi qu'il y en avait plein qui n'étaient pas reconnus par l'État, comme ça je ne le savais pas avant par exemple.
Jules, lui, n'avait pas d'idée et c'est en discutant avec différents intervenants qu'il a pu très tôt faire un choix. Il est aujourd'hui élève en seconde dans le lycée hôtelier Jean Frouan.
Par contre, il y avait quelqu'un qui représentait le monde de la médecine, le monde du sport, le monde de l'hôtellerie, de la restauration. Tout le monde a parlé et ça m'a plu.
Mais pour d'autres, l'expérience a été moins concluante, comme l'explique Solal, 17 ans.
Ils prennent tes coordonnées, ils te rappellent plus tard, etc. Sauf que tu te retrouves perdu parce que tout le monde te propose la même chose, donc on ne sait pas vraiment vers où aller.
Il est donc essentiel de bien s'organiser en amont.
Il faut le préparer, le salon.
Lydia Stupard, de l'Association des psychologues de l'éducation nationale.
Pouvoir cibler peut-être les écoles qui l'intéresseraient. C'est un processus qui se fait progressivement.
Le conseil est donc de préparer son orientation post-bac dès la seconde.
Mathilde Leroy, c'est l'album événement de cette semaine. Le retour d'Aya Nakamura, l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, sort Destiné, son cinquième album. Anesthésié, premier titre de cet album. Aya Nakamura, première chanteuse à remplir trois stades de France consécutivement, ce sera en mai prochain, mais qui suscite toujours autant de critiques de la part de ceux qui, par exemple, ne comprennent pas ses paroles, car la chanteuse bouscule la langue française et c'est ce qui plaît. Victor Vasseur, vous l'avez constaté dans son fief en Seine-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois.
Les chansons d'Aya Nakamura tournent en boucle dans les téléphones de Bérénice et Mira, de lycéennes.
Parce que c'est la reine de France. J'aime beaucoup sa musique, j'aime beaucoup comment elle parle. À l'heure d'actuelle, c'est comme ça qu'on parle tous. Tous les jeunes, même, on va dire les parents, ils parlent comme ça.
Ces adolescentes ont grandi avec les morceaux de la chanteuse franco-malienne, comme Kumba, 17 ans, qui se reconnaît dans ses paroles.
Elle parle comme nous, vous voyez, par exemple, ça peut être mal vu dans la société comment elle parle, mais nous, on le voit pas comme ça. Donc ça veut dire le fait qu'elle parle comme nous, elle nous représente, vous voyez.
Aya Nakamura mêle des expressions africaines, créoles et anglo-saxonnes. Elle utilise aussi de l'argot ivoirien. La chanteuse dévoile toute la richesse de la langue française, estime le linguiste Julien Barret.
Elle nous donne comme un thermomètre, un baromètre de la langue telle qu'elle est parlée réellement, hein, pas idéalement telle qu'on voudrait qu'elle soit parlée. Non seulement elle nous donne un reflet de ça, un miroir, mais en plus elle invente des mots ou elle diffuse des mots qui viennent d'être inventés, qui viennent d'être mis en circulation, mais auxquels elle offre une sorte de d'immense caisse de résonance.
Parmi ces mots, une go pour qualifier une fille, un jaja, c'est-à-dire un menteur, ou encore une pookie, signifiant une personne qui dénonce, une balance. Bla, 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 pookie.
Dernier album d'Aya Nakamura intitulé Destiné. Merci Victor Vasseur. Et puis du nouveau en librairie, ce sera pour début décembre. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy annonce à l'instant la sortie le 10 décembre d'un livre, Le journal d'un prisonnier. C'est le titre, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Patricia Charbonnier, puis le rendez-vous de la médiatrice de Radio France. Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jérôme.
De quoi parlons-nous aujourd'hui ?
Eh bien, nous allons revenir avec Philippe Corbet, qui est le directeur de l'information de France Inter, sur l'émission Questions politiques qui recevait il y a 15 jours Manuel Bompard, avec évidemment de très nombreuses réactions d'auditeurs. Beaucoup de messages également sur la grande matinale de France Inter et sur le traitement éditorial de la condamnation de Nicolas Sarkozy.
On en parlait à l'instant, à tout de suite. 13h45, notre feuilleton sur l'île de Stromboli, en mer Méditerranée, île ultra touristique. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous parlez des sirènes.
Elles enfilent des queues de poisson, travaillent l'apnée, la nage en monopalme. Les sirènes professionnelles existent bel et bien. Elles prolongent sous l'eau un mythe ancien qui retrouve aujourd'hui une étonnante vitalité.
Et avec vous Frédéric, un comédien.
Tigrane Mkhitaryan, que vous pouvez voir actuellement au théâtre de la Contrescarpe à Paris dans son adaptation de La promesse de l'aube de Romain Gary. Et avec lui, ce sont les Marseillais de Psychiatre de la Rime que nous écouterons avec le morceau « Comme une bouteille à la mer ».
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Depuis 2500 ans, les grands courants philosophiques et spirituels du monde s'accordent sur quelques thèmes essentiels qui peuvent changer notre vie.
Frédéric Lenoir.
Dans mon nouveau livre, je vous dévoile ces 5 piliers universels de la sagesse. La connaissance, l'éthique, la présence, l'acceptation et l'amour. Surtout, je montre comment en faire 5 clés qui permettent de se connaître soi-même, de grandir en joie, en sérénité et en liberté.
Les 5 piliers de la sagesse de Frédéric Lenoir, un livre Albin Michel.
Il y a bon plan et bon plan Picard.
S'il n'y avait pas les viennoiseries Picard qui nous attendaient au congélo, qui trouverait la force de soulever sa couette et sortir de son lit Alors, pour vous motiver, on a décidé de vous offrir un sachet de viennoiseries au choix des 40 euros d'achat. Comme ces 8 délicieux croissants pur beurre.
C'est déjà Noël chez Picard. Offre valable jusqu'à dimanche avec la carte Picard et nous. Jamais pareil, toujours Picard. Boîte ou sachet d'une valeur de 4,50 euros maximum. Voir modalité sur picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
France Inter, partenaire du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Du 26 novembre au 1er décembre, la littérature jeunesse se hisse en haut de l'affiche sous le signe cette année de l'art de l'autre. 10 jours avec les plus grands auteurs et autrices français et internationaux de la littérature jeunesse. 400 exposants, des rencontres littéraires et une exposition grand format. Entrée gratuite sur billetterie. Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis du 26 novembre au 1er décembre. Un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Patricia Charbonnier.
Bonjour.
Du froid et de la grisaille oui. Au programme.
Encore de la grisaille sur une bonne moitié est du pays, mais c'est quand même moins instable que ce matin. On a eu pas mal de chutes de neige ce matin. On a encore des averses de neige cet après-midi, mais elles sont plus faibles, plus localisées entre les frontières de l'Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, le Massif central et les Pyrénées. Évidemment, les chutes de neige sont plus marquées en montagne, notamment cet après-midi sur le nord des Alpes, à partir de 500 mètres. Quelques averses sur la Côte d'Azur et la Corse, du soleil autour du Golfe du Lion, mais là, c'est au prix de violentes rafales de mistral et de tramontane. Et puis le temps s'améliore progressivement par le nord et le long de la façade atlantique.
Merci Patricia Charbonnier.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Comme chaque mois dans ce 13-14, la médiatrice des antennes de Radio France, Emmanuel Davier, transmet toutes vos questions à un invité. Et aujourd'hui, Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter. Bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Commençons Emmanuel par l'émission Questions politiques, dimanche 9 novembre, diffusée sur France Inter à la radio et sur France Info à la télévision. Elle a suscité de nombreux commentaires.
Oui, cette émission qui recevait Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a suscité de nombreuses réactions, notamment en raison d'erreurs factuelles relevées dans les interventions d'une des journalistes présentes, Alix Bouillaguet de France Télévisions. Dès la fin de l'émission, la direction de l'information de France Inter a procédé à une vérification complète des faits évoqués. Ces erreurs ont conduit la France Insoumise à saisir la médiation de Radio France et le mardi suivant, donc 2 jours après l'émission. Des corrections ont été apportées par France Télévisions et par Radio France et publiées sur le site de France Inter.
Et cet épisode soulève donc beaucoup de questions.
Oui, parce que certaines de ces erreurs émanent d'une journaliste extérieure à France Inter et des auditeurs se demandent si cela change quelque chose à la responsabilité éditoriale de, vient de l'émission, Philippe Corbet.
Alors non, c'est une émission de France Inter, présentée par une journaliste de France Inter, Alexandra Metsaïd, avec une rédactrice en chef de France Inter, Fabienne Lemoyle. Et donc, elle fonctionne comme toutes les émissions de France Inter, avec effectivement cette particularité, c'est que parmi les journalistes qui mènent l'entretien, il y a, en plus de la journaliste de France Inter, une journaliste du Monde et une journaliste de France Télévisions. Néanmoins, la responsabilité est bien la nôtre, et c'est pour cela que dans la foulée de l'émission, moi j'ai appelé Alexandra Metsaïd, j'ai appelé la rédactrice en chef Fabienne Lemoyle, et on a essayé d'évaluer ce qui s'était passé, le problème qu'on avait, le problème de contrôle éditorial, et rapidement, moi j'ai pris contact avec France Télévisions, et nous avons voulu apporter, compléter des choses qui étaient imprécises, corriger des inexactitudes. On souhaitait, nous ici à Radio France, le faire avec France Télévisions, donc on a discuté ensemble d'un texte qui a été mis en ligne le mardi sur le site de l'émission, on l'a diffusé aussi via les réseaux sociaux, et dans l'émission suivante, donc dimanche dernier, il y a eu un correctif à l'antenne, et des précisions et des excuses présentées par la journaliste de France Télévisions. On a quand même réfléchi aussi, on en avait parlé avec vous, et on l'avait annoncé sur le site de la médiatrice, voulu renforcer le contrôle éditorial dans ce fonctionnement, et donc il y a une réunion, une conférence de rédaction à France Inter, et ensuite on fait une réunion équivalente avec les journalistes du Monde et de France Télévisions pour éviter que ce genre de situation se reproduise.
Donc ce sont les nouvelles procédures de Absolument. Vérification que vous allez mettre en place.
Absolument.
Ces procédures de vérification, justement, comment fonctionnent-elles au quotidien dans la rédaction de France Inter ?
Il faut bien avoir à l'esprit que les journalistes qui viennent à l'antenne de France Inter n'arrivent pas en décidant ce dont ils veulent parler tout seuls, et disent ce qu'ils veulent. Il y a tout un travail collectif. Je prends l'exemple, de Jérôme, c'est-à-dire que certes, il est à l'antenne pendant une heure tous les jours, mais nous avons une conférence de rédaction le matin, avec les chefs de service, la rédaction en chef, la chef des informations, le directeur de la rédaction. Moi, j'essaie d'être là aussi souvent. C'est un travail collectif, une réflexion, et même après cette conférence de rédaction, il y a un dialogue permanent entre Jérôme Cadet, la rédaction en chef, la chef des informations, et s'il y a un doute, le moindre doute sur un choix éditorial majeur, ou parfois sur une précision, un chiffre, un lieu, un arbitrage à faire, c'est d'abord une réflexion collective. Et c'est comme ça que doit fonctionner une rédaction et une émission, que ce soit pour une émission politique ou bien pour un choix plus précis pour tel ou tel reportage.
Et au-delà de cet épisode, Philippe Corbet, qu'est-ce que cette affaire vous apprend à vous, en tant que directeur de l'information, sur des fragilités ou bien des points de vigilance à renforcer ?
Et que à chaque instant, ça vaut pour une brève dans un flash, quelques secondes, un journal de 15 minutes, 20 minutes, une émission, une tranche d'information d'une heure comme le 13-14, ou une émission politique comme Question politique. Il faut sans cesse contextualiser, ajouter des sources si nécessaire, être précis et évidemment toujours être solide sur les faits. Et ensuite, les auditeurs se font une opinion.
Et m'écrivent si nécessaire.
Voilà.
Autre sujet, ils vous ont écrit aussi, nos auditeurs, Emmanuel Davier, ces dernières semaines, pour vous parler de la grande matinale de France Inter. Ils sont très nombreux à l'écouter, à y être attachés, mais certains expriment une forme de désarroi.
Oui, des auditeurs disent ne plus très bien en percevoir la ligne, la lisibilité ou le fil conducteur. Ils trouvent que la grande matinale s'étire en longueur, qu'elle accumule les chroniques et les voix, qu'il en résulte parfois une impression de remplissage. Philippe Corbet, je sais que vous lisez très attentivement chaque jour les courriers des auditeurs. Vous avez pris connaissance de leurs remarques au sujet donc de la grande matinale, et beaucoup disent avoir du mal à en saisir, à en percevoir la cohérence. Est-ce que les critiques des auditeurs sont prises en compte et envisagez-vous des ajustements ou des évolutions pour rendre cette grande matinale plus claire et plus fluide ?
Oui, Emmanuel, en lisant les messages que vous me transmettez tous les jours, j'ai retrouvé des remarques ou des impressions que j'ai moi-même parfois en écoutant certaines tranches de l'antenne, notamment certains rendez-vous dans la grande matinale qui ne sont pas encore clairement identifiés par les auditeurs. Et ça, je partage en partie leurs remarques. Et donc, nous sommes en train de travailler avec Adèle Vendrel, la directrice de France Inter, et Laurent Goumard, le directeur des programmes, à des ajustements et parfois des changements pour qu'il y ait plus de lisibilité, plus de fluidité, plus de cohérence, et que pour les auditeurs familiers de la matinale de France Inter se retrouvent davantage ce qui fait pour eux le sel et l'intérêt d'écouter France Inter chaque matin.
On le sait, une matinale, c'est un équilibre délicat entre l'information, l'analyse, des chroniques, l'humour, la musique. Si l'on revient à l'intention initiale, quelle est ou quelle devrait être l'identité éditoriale de cette grande matinale? Que voulez-vous que l'auditeur retienne de ces 4 heures d'antenne?
Alors, pour faire simple, et ce n'est pas facile de faire simple puisque c'est un sujet complexe, mais France Inter doit s'adresser à la France entière. Et donc, l'idée générale, c'est qu'on peut parler de tout, mais à condition de s'adresser à tout le monde. Et donc, la difficulté qu'on a, et elle n'est pas nouvelle, mais elle s'accentue au fil du temps, c'est que France Inter est la première radio de France, et de loin, tous les rendez-vous d'information sont en tête, parce que c'est celle qui raconte le mieux l'époque dans notre pays. Mais nous sommes dans un moment où de plus en plus de Français sont méfiants et parfois distants vis-à-vis l'époque. Et ça, ça crée une difficulté supplémentaire pour raconter une époque et un pays qui est traversé parfois par des fractures. Et ça se retrouve aussi dans nos réflexions et nos difficultés parfois à ajuster telle ou telle chose. Et c'est pour ça que nous travaillons pour apporter des changements.
Emmanuel, beaucoup d'auditeurs vous ont demandé également ces derniers jours des nouvelles de Nicolas Demorand.
Oui, depuis plusieurs semaines maintenant, je suis destinataire chaque jour de messages d'auditeurs qui s'interrogent sur son absence ou bien des auditeurs qui lui adressent des souhaits chaleureux et qui disent qu'ils pensent bien à lui. Je vous lis l'un de ces messages. J'aimerais apporter un témoignage de soutien à Nicolas Demorand et lui présenter tous mes vœux de prompt rétablissement. J'ajoute que j'aime beaucoup Florence Paracuellos, avec tous mes remerciements à ces deux journalistes hors pair. Philippe Corbet, un couple d'auditeurs, écrit également « Si vous pouvez nous donner quelques petites nouvelles au sujet de Nicolas Demorand, nous serions rassurés. »
Merci pour vos nombreuses lettres qui sont adressées et qu'on lit et qu'on va transmettre, on va continuer à transmettre à Nicolas Demorand. D'ailleurs, Nicolas me disait il y a quelques jours que ces messages des auditeurs lui font plaisir, le touchent au cœur. Il se repose, il en a besoin. Nous sommes impatients de le retrouver, mais pour l'instant, il a besoin d'un peu de repos. Et en attendant, nous avons demandé à Florence Paracuellos, qui est une voix familière pour les auditeurs de la matinale de Nicolas Demorand, de les réveiller tous les matins. Et elle le fait avec Benjamin Duhamel, qui l'a rejoint pour l'interview de 7h50 et le grand entretien de 8h20. Et nous avons demandé à Florence de se rendre disponible jusqu'à Noël, au cas où, si besoin, mais nous espérons pouvoir retrouver Nicolas avant cela.
Alors j'ajoute que les auditeurs écrivent également au sujet de Florence Paracuellos et nous publions cet après-midi dans la lettre de la médiatrice.
Et en disent du bien.
Oui, ils en disent absolument du bien, absolument. Et donc nous publions des messages qui sont adressés à Nicolas et à Florence cet après-midi dans la lettre. Si vous voulez en lire quelques-uns, vous pouvez aller sur le site de la médiatrice.
On en vient, Emmanuel, au traitement éditorial de l'incarcération et de la sortie de prison de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, ce qui a occasionné des questions sur la hiérarchie de l'info.
Oui, des auditeurs regrettent une forte médiatisation de l'ancien chef d'État, parfois au détriment, disent-ils, d'autres sujets majeurs. Est-ce un ressenti des auditeurs ou la réalité de votre couverture journalistique? Et quels sont, Philippe Corbet, vos critères pour évaluer l'importance d'une information et la place à lui accorder sur l'antenne?
Alors, dans ce cas précis, c'est un moment historique. Jamais un chef de l'État, un ancien chef de l'État de la Ve République n'avait été incarcéré. C'est pour ça que nous avons consacré de la place à cet événement, à la condamnation, à l'incarcération, puis à la libération. Mais néanmoins, il me semble que nous n'avons jamais alimenté un feuilleton au quotidien comme ont pu le faire d'autres médias. Et je pense aussi que dans cette histoire, il y a une affaire de perception. Il se trouve que c'est sur France Inter que le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, est venu dans ce studio annoncer qu'il allait rendre visite à l'ancien président en prison. Cet extrait d'entretien, c'était face à Benjamin Duhamel, de quelques secondes, a été beaucoup repris, a été beaucoup vu sur les réseaux, nos réseaux, mais aussi repris par d'autres, beaucoup vu sur toutes les chaînes ailleurs. Et a pu donner l'impression, et c'était un effet d'optique, que nous consacrions une place vraiment importante à cette question-là, alors que nous la traitions dans la mesure de ce qu'était, cet événement. Je ne pense pas que nous ayons couvert de façon excessive, en tout cas en volume ou en intensité, cet événement qui reste, je vous le disais, un moment historique.
Oui, c'est vrai que l'épisode que vous citez, le logo de France Inter a été vu de très nombreuses fois, et ça peut effectivement ajouter un peu à cette impression d'une forte médiatisation. Certains estiment également que l'émotion a pris le pas sur la pédagogie, rendant peu compréhensible la décision de justice et ses motivations. Comment concilier le récit d'un événement politique inédit avec la nécessité d'expliquer les motifs juridiques d'une décision assez complexe?
Alors c'est un vrai sujet, et c'est pour cela que nous avons que j'avais demandé à Sarah Guibaudot, qui est la chef de service du service police-justice, de venir le lendemain de la condamnation dans le grand entretien de France Inter, sur la longueur, sur 25 minutes, expliquer les motifs et les raisons de cette condamnation. C'est un travail de pédagogie qui est exceptionnel. D'habitude, les chefs de service ne sont pas les invités du grand entretien, mais on avait pensé que c'était important. Et de manière plus large, nous avons traiter cet événement, donc condamnation, incarcération, libération, d'abord comme des événements judiciaires, plutôt que comme des événements politiques. Et donc nous avons finalement laissé assez peu de place au débat politique autour qui a alimenté d'autres antennes et parfois avec un volume important. Nous sommes restés davantage sur l'événement judiciaire. Et donc ce bruit qui a pu exister d'un débat politique intense qui était alimenté par des soutiens ou des opposants de Nicolas Sarkozy, nous y avons finalement consacré assez peu de place.
Dernière question, et j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps d'y répondre parce qu'elle est revenue fréquemment dans les messages des auditeurs. Ils ont le sentiment d'avoir davantage entendu la parole des défenseurs de Nicolas Sarkozy au détriment d'un rappel factuel de sa condamnation, avec l'idée que la justice serait injuste ou bien politisée, une idée très présente dans le discours de l'ancien chef d'État. Comment garantir l'équilibre des points de vue, Philippe Corbet, notamment lorsqu'il s'agit d'une figure politique majeure? Je pense qu'il est important de bien prendre le temps de répondre à ce point.
C'est vrai que ça n'est pas facile, mais encore une fois, nous avons d'abord traité cet événement comme un événement judiciaire. Il n'y a pas eu à l'antenne, que ce soit dans les reportages ou dans les endroits de la matinale ou des autres émissions d'information, que ce soit à 7h50 face à Benjamin Duhamel ou à 8h20 dans le grand entretien, des débats sans fin entre soutien et opposant Nicolas Sarkozy. On a d'abord traité cela avec d'un point de vue judiciaire. Il y a finalement, quand on prend un peu de recul, assez peu de place, ou en tout cas il n'y a pas eu un excès de place pour un débat politique et purement politique au dehors de cette condamnation-là. Si nous l'avions fait, on aurait eu l'impression effectivement de critiquer ou de remettre en cause une décision de justice, ou en tout cas certains invités auraient pu donner cette impression-là. Ce n'est pas du tout ce que nous avons fait, et je sais très bien que d'autres antennes y ont consacré plus de place, et peut-être que cette impression-là nous rattrape, mais ce n'était pas le cas sur France Inter.
Merci Philippe Corbet, directeur de l'information de France Inter. Emmanuel Davier, si les auditeurs veulent vous écrire, veulent vous solliciter?
Eh bien, ils vont sur le site de la médiatrice de Radio France. Ils nous adressent leur message pour donner leur avis sur les programmes, sur les journaux d'information, et nous les relayons quotidiennement à la direction.
Emmanuel Davier, médiatrice des antennes de Radio France, 13h46 sur Inter. L'heure de notre feuilleton, une semaine dans leur vie. Nous sommes depuis lundi au pied du volcan le Stromboli. Grâce à Adrien Serrière, cette île ne compte plus que 400 habitants à l'année. Des habitants qui doivent composer avec l'un des volcans les plus actifs au monde, mais aussi avec d'innombrables touristes. Un afflux qui a transformé la vie locale.
C'est une légende, hein. Depuis qu'on est petit, on entend parler du Stromboli, du Vésuve, de l'Etna.
C'est mon épouse, en fait, qui a décidé de réserver 2 à 3 nuits selon les îles de notre choix. Et on est déjà monté hier soir sur le Stromboli, qui était magnifique. Et c'est fascinant, c'est un attrait, ça attire le monde. Et on voit d'ailleurs sur l'île tous les touristes qui sont là.
Ces filets-là, c'est pour attraper les crabes. Ils sont très bons. Ceux-là, on les mange avec les linguini. Ça a un goût un peu comme la langouste, peut-être même meilleur. Je suis Gaetano Cusolito. Je suis né à Stromboli en 1952. Nous, les pêcheurs, on n'est plus très nombreux car maintenant les gens font des métiers qui rapportent plus. Moi, je le fais par passion. J'aime ce métier et je ne veux pas de patron. Je préfère travailler pour moi. Maintenant, on voit arriver tellement de grosses excursions organisées. Chaque après-midi, il y a ces énormes bateaux. Les gens descendent pour 2 heures. Ils ne comprennent rien au Stromboli et ils repartent sans avoir rien compris. Ils ne vont pas dans le cœur de l'île, là où sont les gens qui habitent ici, qui pourraient leur raconter des choses intéressantes. Non, eux, ils font leur petit tour après 2 heures, ils repartent et c'est fini. Comme un peu partout en Italie ou ailleurs, là où il y a tant de touristes, c'est très bien pour eux, mais ça détruit le lieu. Ça ne va pas du tout.
Je m'appelle Franco Utano, mais tout le monde m'appelle Zulo. On est ici dans mon restaurant. Je viens d'une des plus anciennes familles de pêcheurs de l'île. Nous, on est nés en mer, sur un bateau. J'ai arrêté la pêche dans les années 80 pour ouvrir mon restaurant. Alors là, je prépare les boulettes de thon.
Milo!
Celles-là, on les a déjà préparées hier. Elles sont très bonnes. Reste à faire la sauce.
Et cette île, tu l'as vue changer avec le temps ?
Oui, beaucoup. Beaucoup.
Et comment est-ce qu'elle a changé ?
Je ne sais pas si on peut dire en bien. Si, mais moi je préférais les années un peu plus difficiles. Il y avait une façon de s'aimer, de faire attention aux autres un peu différente. Mais on y vit toujours bien. Maintenant, tout le monde travaille dans le tourisme. L'économie ne tourne qu'autour de ça. Il n'y a pas de violence. La pauvreté, on vit avec. Personne n'est riche ici, on survit. Moi, j'ai choisi de faire un travail tranquille, de faire moins de couverts. Travailler pour la masse, ça ne m'intéresse pas. Ma femme, quand elle vient ici, elle dit « Merci, Zuro, j'ai bien mangé ». C'est ça qui m'intéresse, pas l'argent.
Et on embarque une semaine à Stromboli avec Adrien Serrière. Réalisation Vincent Godard. Vous retrouvez ce feuilleton évidemment sur l'application et les réseaux de Radio France.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h50. La France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, direction le littoral où l'on peut croiser, c'est très sérieux, des sirènes. Sirènes, c'est même un métier.
Je vous avoue, Jérôme, j'ignorais totalement l'existence de sirènes professionnelles. C'est en lisant cet automne « Le monde est fatigué » de Joseph Incardona que j'ai rencontré Eve, une sirène qui chaque soir écoute la météo marine avant de s'endormir, car c'est ainsi, dit l'auteur, que s'endorment les sirènes. Puis j'ai découvert qu'il existe en France une dizaine d'écoles de sirènes. L'une des toutes premières est lancée hier en 2015 par Jean-Luc Cazares. Aujourd'hui, les cheveux des sirènes ont dû comme des algues dans nos fonds marins et les tritons nagent à leur côté, une passion partagée sans distinction de genre.
Alors, cette formation, que faut-il apprendre pour entrer dans la peau d'une sirène ?
Alors, il faut d'abord réussir à enfiler sa queue en silicone, peinte écaille par écaille, qui peut peser jusqu'à 15 kg. On travaille ensuite l'apnée, la gestion de la profondeur, on apprend à maintenir son cardio, à travailler les mouvements en monopalme. Le secourisme est recommandé, être sirène, c'est aussi veiller sur les autres. Dans certaines écoles, l'ambition est de former une communauté de sirènes engagée sur les sujets environnementaux. Ce peut être un loisir comme un métier. Un diplôme délivré par les fédérations de plongée ouvre à une activité indépendante. Vidéo artistique, sensibilisation écologique, spectacle en aquarium, doublure cinéma, transmission dans les écoles. Être sirène devient alors une manière d'incarner un imaginaire et une responsabilité.
Et d'où vient cette figure de la sirène ?
Alors l'origine des sirènes se perd dans la nuit des temps. Dans la mythologie grecque, elles apparaissent comme des créatures hybrides. Buste de femme, corps d'oiseau, serre de rapace. Elles attirent les marins vers les écueils grâce à leur chant ensorceleur. Dans l'Odyssée d'Homère, Ulysse évite le désastre en bouchant les oreilles de ses compagnons et en se faisant attacher au mât. La figure mi-femme, mi-poisson appartient au pays du Nord.
longue chevelure, buste féminin, créature séductrice. En 1837, Andersen transforme le mythe avec la petite sirène, qui devient désormais protectrice. Puis Disney, en 89, impose la silhouette d'Ariel et son imaginaire enchanté à des millions d'enfants. Mais de nombreuses facettes du récit nordique ont été oubliées. Colombe Bonsen le rappelle dans son très beau livre « Des sirènes » où elle évoque celles qui elles échangeaient leurs chevelures pour sauver leurs sœurs. Les récits contemporains mettent en lumière cette sororité que l'on retrouve dans les figures actuelles.
Pourquoi est-ce que la sirène continue aujourd'hui, Virginie, de nous séduire?
Pour beaucoup, tout commence par un désir d'un rapport plus organique à l'eau. Vient alors une sensation d'apaisement, comme si l'on se glissait dans une bulle qui réaccorde le corps et l'esprit, avec cette douceur particulière d'être suspendu entre le réel et l'imaginaire. Il y a parfois également cette volonté de nager à contre-courant d'un monde trop normé. Et puis, devenir sirène, c'est aussi préserver la tradition des contes, ce patrimoine où affleurent nos origines. Sirène ou triton ne sont pas des figures innocentes, ce sont des éclats d'enfance qui nous rappellent notre capacité d'émerveillement. Les contes sont nés de cette tentative ancienne d'apprivoiser la nature et l'obscurité. Et les mythes demeurent vivants parce que nous sommes libres toujours de les réinventer pour éclairer ce qui nous hante, nous protège ou nous fait rêver. Une seule vérité demeure, les sirènes ne meurent jamais, elles deviennent écume.
Les mots de Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce 13-14 de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec d'autres mots. Frédéric Pommier, c'est un comédien et metteur en scène que vous recevez aujourd'hui. Tigrane Mkhitaryan.
Tigrane Mkhitaryan qui, après avoir proposé des versions modernisées de plusieurs classiques de Molière, vient d'adapter pour la scène La promesse de l'aube de Romain Gary. La pièce se joue au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Et c'est un titre des rappeurs de Psychiatre de la Rime qu'il a souhaité que l'on écoute comme une bouteille à la mer. Une chanson qu'il a découverte adolescent dans sa chambre à Menton.
Je la découvre sur YouTube. Et elle est importante pour moi parce que c'était la première fois que je me suis rendu compte que des émotions pouvaient être transmises par la musique et par l'art. Et cette émotion en particulier m'avait beaucoup touché parce que, comme une bouteille à la mer, ça porte bien son nom, c'est une bouteille dans une mer qui ne sait pas où elle va, qui est perdue, qui est au milieu des flots et qui peut se faire prendre par les vagues, par les courants d'air et qui peut être remuée dans tous les sens sans jamais se briser. Parce que c'est au milieu de la mer et qu'il n'y a pas de rocher. Et quand Soprano de Psychiatre de la Rime à l'époque la chante, dans sa voix, je sentais une colère mélancolique, une sorte de rage enfouie qu'il garde et t'as l'impression qu'à chaque moment, ça va péter, ça va exploser. Et c'est ce qui se passe à la fin de la musique. Et je trouvais ça super fort, super intelligent. Et il me rendait intelligent, quoi. Je comprenais des images qui faisaient comparaison avec ma vie.
Encore une prise de bec avec ma mère, je fais le sourd, claque la porte pour oublier, je ricane avec mes potes en tapissant un bloc. Le visage plongé dans les étoiles, noyé dans ma gamberge, cherche une île, une berge ou au moins un bout de bois. Je me sens comme une bouteille à la mer, je vais où le flot de la vie me mène, loin de tout, même de ma mère, la vie m'a offert la solitude de Robinson. Je voudrais repeindre ma vie, mais je ne trouve pas le bon pinceau. Certains ont fait le grand saut, mariés et des enfants nous lâchent leur discours de réussite. Leur vie est mieux qu'avant, c'est ce qu'ils nous disent. Je vois de la lassitude dans leur regard, mais eux au moins ont essayé de sortir de leur brancard. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté des tas de trains. Pourtant, je n'ai jamais quitté le quai. La preuve, les jeunes me squattent, ça craint.
C'est en 2005 qu'est sorti ce morceau, Frédéric.
Un morceau dans lequel Soprano exprime donc son sentiment d'isolement et cette colère qui continue d'animer Tigrane Mkhitaryan.
J'ai toujours été très en colère, j'ai toujours eu beaucoup de violence en moi, mais j'ai jamais trop su le pourquoi du comment. Je sais pas si c'est commun ou pas, mais chez moi, c'est commun de se battre, la bagarre, et donc de se prendre des coups, et donc d'en donner. Et quand je dis chez moi, c'est pas tant dans ma famille ou dans mon éducation, mais c'est tout ce qu'il y a autour, les jeunes des quartiers avec qui j'ai grandi, bref, dans ce milieu-là. Et je crois que ça part d'un sentiment d'être marginalisé, que depuis tout petit, j'ai l'impression de pas avoir le droit de penser par moi-même, et qu'on a toujours eu tendance, beaucoup plus facilement avec moi qu'avec les autres, de me dire ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce qui est juste ou pas juste. Et j'ai toujours été attiré par ces jeunes-là qui, me semble-t-il, me comprenaient.
Et vous avez l'impression que ces copains que vous aviez à cette époque-là, ils partageaient la même colère que vous ?
Oui, Mais eux, c'était beaucoup plus costaud. Mais du coup, ça m'a empreint parce que j'ai vu des choses.
Faut que je prouve que j'ai été vivant. Si tu penses que je dois avoir un psy, dis-toi que je n'ai que le rap comme divin. Mal à marée haute, et je me laisse emporter par les vagues. Elles sont trop fortes, voudraient dire que je t'aime, mais j'ai trop de trac.
Les jeunes avec qui je faisais du foot et qui étaient trop gentils, trop mignons, ces jeunes-là faisaient des allers-retours en prison bien plus tard parce qu'ils étaient proches du grand banditisme, grosso modo. Et c'est ça que j'ai compris avec le temps, c'est que je copie des mécanismes que j'ai vus. Des vitres cassées sous effet de la colère parce que la personne ne sait pas gérer sa frustration et elle brise une vitre, c'est quelque chose qui peut m'arriver moi parce que je l'ai vu. Tout le travail que j'ai à faire depuis quelques années, c'est de pouvoir déconstruire ça. Mais c'est un travail perpétuel parce que ton corps, ton esprit, pour moi j'ai 33 ans, donc on va dire depuis 20 ans, est empreint de ça, empreint continuellement de ça.
Comme une bouteille à la mer, je me sens comme une bouteille à la mer.
Et est-ce qu'aujourd'hui, en prenant un peu d'âge, vous êtes un peu moins en colère ? Ou vous avez toujours la même rage ?
J'ai toujours la même rage. Mais je la travaille. Le théâtre, ça m'a sauvé. Monter des pièces, ça m'a sauvé. Vouer ma vie au travail, c'est-à-dire 10h, 18h, je répète, 21h, je vais jouer, ça me permet d'extérioriser, ça me permet de sortir. Mais la rage, si c'est maîtrisé, c'est un moteur incroyable.
Vous avez dit que le théâtre vous avait sauvé ?
Oui.
S'il n'y avait pas eu le théâtre, vous seriez devenu quoi ?
Un petit con.
Comme une bouteille à la mer. 6-4 de la rime. C'était donc Frédéric, le choix de Tigrane Mkhitaryan.
Tigrane Mkhitaryan que vous pouvez retrouver au théâtre de la Contrescarpe à Paris dans son adaptation de La promesse de l'aube de Romain Gary.
Merci Frédéric. La semaine prochaine, à votre place, une carte blanche signée Stéphane Echer et rien que pour vous, chers auditeurs du 13-14. Au générique de cette semaine, nos remerciements à la rédaction en chef Sonia Princé, Cécilia Arbona et Lionel Thompson, assistés de Rachid Zourdani, Nicolas Sabat et Sylvain Lesage. À la technique, Alix Barrois, Élise Christophe et Florian Dorimini. Nos attachés de production, Aurore Mansip et Camille Poux-Jalaguier. Stéphanie Duncan à suivre, le fil de l'histoire.